pour les constructeurs automobiles et Kia viennent de le renouveler, le Seltos, pour une toute nouvelle génération. Il est plus gros qu'auparavant, offre plus d'espace à bord, offre plus de coffres aussi et on lui a vraiment fait un traitement VUS carré, très identitaire maintenant. Il est un petit peu plus haut également, donc on veut vraiment jouer la carte ici de la robustesse tout en conservant des mécaniques qu'on connaît très bien. Je l'ai mis à l'épreuve dans la région de Québec, c'était au lac Beauport le lancement, toujours le fun de le dire quand c'est dans notre coin.
Ben
On a
oui.
fait le lancement canadien au lac Beauport et on a pu mettre à l'épreuve ce nouveau véhicule-là qui a connu une augmentation de prix pour 2027. On parle quand même de 2 400 $ de différence, donc il va débuter aux alentours de 31 500 $, puis on peut se rendre jusqu'à 44 500 $ comme la variante que j'ai moi-même pu mettre à l'essai. Ce que je veux que vous reteniez, c'est que si vous aimiez l'ancien Seltos, celui-là est complètement différent. On le ramollit, il est beaucoup plus doux sur la route. Je trouve qu'il offre plus d'espace, mais il est moins dynamique qu'il l'était auparavant aussi. On a essayé de jouer une carte, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, VUS, et je crois qu'il y a des gens qui vont être attirés vers ça, d'autres qui vont peut-être s'ennuyer du côté un petit peu plus
Ah
petit,
ouais.
un peu plus dynamique de l'ancienne mouture. Pour rassurer tout le monde, Kia lance aussi une variante hybride qui s'en vient à la fin de l'année. Ça, c'est une première, une mécanique que j'attends avec impatience qui risque de vraiment changer le comportement dynamique du véhicule. On va lancer 5 variantes dès l'arrivée du produit et j'ai l'impression que Kia veut arriver avec le couteau entre les dents. On va arriver avec un prix alléchant, une mécanique hybride dont la cote actuellement. Donc, je pense qu'on va essayer de rentrer très fort dans ce segment.
Ah, puis on a besoin de ça, des véhicules qui sont de moins en moins chers, mettons, on va se le dire, là. Sam, on s'était dit aujourd'hui qu'on prendrait des questions d'auditeurs. Il y en a déjà quelques-unes de rentrée. Vous ne vous gênez pas au 88-971-1021. Avant, je suis tombée sur une étude un peu plus tôt aujourd'hui qui révèle que plus d'un tiers des Canadiens ont été personnellement touchés par le vol d'automobiles. Seulement 18% croient que les nouveaux véhicules sont protégés adéquatement contre le vol, fondé sur les technologies modernes, évidemment, là. Et on a bon, plein de statistiques. Là, on dit entre autres que 75% des Canadiens pensent que c'est nécessaire de rendre obligatoire la technologie anti-vol dans les véhicules, étant donné que la confiance dans la sécurité diminue un peu. T'en penses quoi de ça?
J'en pense que les constructeurs font pas grand-chose encore pour essayer d'améliorer la situation. On reste un peu sur le statu quo en proposant des technologies qui se sont montrées déjà lacunaires actuellement. On voit que les véhicules sont encore trop susceptibles de se faire voler. Certes, on a resserré les vis un peu partout au Canada. On a parlé entre différents paliers gouvernementaux pour essayer de serrer justement les mesures pour bloquer les vols de véhicules, mais ça n'a pas réglé le phénomène à 100%. Moi, ce que je vois surtout, c'est qu'on n'a pas d'innovation vraiment dans le marché automobile. Et là, qu'est-ce qui commence à faire mal aux constructeurs, c'est qu'il y a des véhicules qui coûtent une fortune en assurance, pas seulement des véhicules spéciaux ou très haut de gamme. On parle des véhicules familiaux ou généralistes
Ben
qui
oui.
peuvent se faire voler trop fréquemment et
Hey,
donc faire
Sam,
augmenter les primes
il y a
d'assurance.
une couple d'années, là, j'avais une Elantra de chez Hyundai. Puis je comprenais pas pourquoi ça me coûtait 150 $ par mois d'assurance. Je capotais, j'appelais partout. Puis j'avais fini par demander, voyons, c'est un petit char, c'est comme le moins cher sur le marché, là. Puis on m'avait dit, ben c'est celui qui a le plus de cas de vol et vandalisme actuellement. Fait que malheureusement, les assurances montent, tu sais.
C'est toujours relié à ça. Donc là, il y a des constructeurs qui ont cette épine dans le pied-là parce que leurs véhicules chouchous se font voler et donc les gens magasinent leurs assurances avant de les acheter. Puis là, ben, ils se rendent compte que ça coûte 2 000 $ 3 000 $.
Mais
Ça coûte
oui.
trop cher. On ne veut pas payer ça. Puis là, on annule des ventes. C'est un phénomène qu'on sent. On voit quand même qu'il y a de l'amélioration. Ce que ça prouve, cette étude-là, qui a été faite, c'est surtout de dire, ben, il y a encore un problème. Puis la perception du public est encore mauvaise face à la protection de nos véhicules. Sont encore trop susceptibles de se faire voler, puis clairement, ça ne fonctionne pas assez.
Nous, qu'est-ce qu'on peut faire, mettons, pour ça?
Et tu sais, un des bons vieux trucs, c'est de mettre la fameuse barre sur le volant. Si vous êtes vraiment inquiet, il n'y a rien de mieux qu'un antivol physique pour essayer de dissuader les voleurs. Ça, c'est une barre qu'on installe pour tenir le volant en place. Et tant aussi longtemps qu'on n'a pas enlevé la serrure de cette barre-là, on ne peut pas tourner le volant du véhicule. C'est un petit peu plus difficile à voler, vous comprendrez donc. Donc ça, c'est des systèmes qui sont disponibles qu'on peut ajouter soi-même. Mais moi, je trouve ça plate qu'aujourd'hui, on demande des trentaines de milliers de dollars aux gens pour avoir des véhicules qui sont plus faciles à voler qu'auparavant. Ça, je commence à trouver ça irritant pas mal. Puis inquiétez-vous pas, on chauffe l'industrie par rapport à ce sujet-là.
La fameuse barre de volant, c'est drôle parce que souvent je la vois, puis on dirait que pour moi c'est quasiment plus esthétique. Puis on dit ça va-tu vraiment décourager le voleur? Je me dis, si le voleur est équipé pour voler un char, dans ma tête, il est équipé pour l'enlever assez facilement, cette barre de volant-là.
C'est une excellente analyse, Max. La seule affaire, c'est que dans le cas des vols maintenant, c'est tellement rendu technologique qu'on n'utilise plus tant d'outils. On va prendre un iPad ou des systèmes informatiques pour le faire, mais la barre, elle, c'est physique. Fait qu'on
C'est
n'a plus,
intéressant.
on traîne plus des tournevis comme avant ou des fils de fer pour passer ça dans la fenêtre pour enlever les serrures. T'sais. Ça, c'est fini cette époque-là. Fait que malheureusement, la barre reste encore une solution très intéressante parce que les vols sont rendus technologiques. La barre n'est pas du tout. Puis souvent, les voleurs, quand ils vont faire ça, ils vont faire, écoute, tant qu'à me casser la tête avec ce produit-là, je vais aller voir le prochain dans le stationnement plus loin.
Et que son lâche.
Oui.
De plus en plus. On est avec Sam Tremblay-Michaud pour ceux qui viennent de se joindre à nous, chroniqueur automobile, journaliste automobile aussi pour RPM. Et il y a des questions déjà qui entrent, Sam, puis je veux te lire un message. Jay qui nous dit, je veux prendre le temps de remercier Samuel. J'avais posé la question si la Sienna AWD hybride, c'est un bon choix. On a un depuis... la mi-mai, une 2026, on l'adore, très pratique, confortable pour la famille. Fait qu'il te remercie encore de tes conseils.
Content d'entendre ça fait plaisir,
Ben,
vraiment.
c'est le fun d'avoir du feedback, je trouve, des fois, parce que t'es là, puis tu donnes des conseils gratuitement, puis tu nous jases, mais je veux dire, c'est cool de savoir que les gens écoutent au final, là.
Vraiment, très intéressant.
OK, première question que j'ai via les Instagram. Quel est le meilleur crossover dans les sous-compacts avec un budget de 25 000 $?
Avec 25 000 $, il va falloir regarder peut-être pour l'usager. C'est triste à dire, mais maintenant, les VUS sous-compacts vont tous commencer aux alentours de 30 000 $. Ça peut aller vite avec le financement, avec les taxes et compagnie. Si on regarde toutefois avec cette idée-là en tête, j'ai pas envie de faire changer tous vos plans, mais il y a des voitures compactes qui pourraient répondre à vos budgets. On a nommé la Hyundai Elantra qui rentre là-dedans, la Kia K4, même la Toyota Corolla pourrait rentrer dans votre budget. Si vous voulez vraiment avoir un VUS, je vous invite à vous tourner encore une fois vers ces marques généralistes-là. On peut avoir un Kona, même le nouveau Kia Seltos, on peut arriver sensiblement dans vos budgets. Si vous désirez rester vraiment autour du 25 000 $, je vous invite à aller voir des produits comme un Subaru Crosstrek, par exemple. Allez voir un Subaru Crosstrek 2024-2025, une machine qui a fait ses preuves et qui risque, malgré sa dépréciation, d'être autour du budget que vous regardez et donc va vous faire une bonne voiture pour un bon prix.
On a une question de Geneviève qui dit, j'ai une Honda Civic 2020 avec moins de 85 000 km. J'ai fini de payer mon véhicule et là, mon concessionnaire depuis un an me rappelle sans cesse pour que je puisse vendre mon auto et racheter une nouvelle auto. Sa question, c'est pourquoi les concessionnaires sont aussi harcelants?
Bien, premièrement, vous allez le garder, j'espère, votre Honda Civic. Je pense que vous faites vraiment la bonne chose. Gardez-le. C'est vraiment un très bon produit que vous avez entre les mains. Pour répondre à votre question, c'est simplement une question de vente, hein. T'sais, on fait de l'argent lorsqu'on réussit à vendre des voitures. Les conseillers automobiles font leur souci avec des commissions qui sont reliées aux ventes. Et souvent, bien, on essaie d'aller travailler notre clientèle dans les coins, en bon français, en leur parlant d'incitatifs, de soirées VIP exclusives pour nos clients qu'on aime et qu'on veut chérir. Mais l'idée, c'est toujours de vous revendre un véhicule et donc de faire des sous. Moi, je vous invite à le conserver. Et si vous êtes tanné des appels de votre concessionnaire, gênez-vous pas de lui dire que vous êtes tanné.
Ça se dit
Parce
ça?
que oh, ça se dit, j'espère que ça se dit. C'est vous le consommateur, vous avez le droit de dire ce que vous voulez, tant que ça reste poli, bien évidemment. Mais on peut clairement l'affirmer ouvertement que là, vous êtes tanné puis que vous voulez garder encore votre Honda Civic pour longtemps. Je pense qu'ils vont commencer à arrêter de vous appeler un petit peu.
Comment est-ce qu'on trouve le HRV traction intégrale, niveau fiabilité, consommation, etc.?
On est là pour ces points-là. Fiabilité, consommation, je pense que c'est pas un produit qui me déçoit. Moi, ce qui m'a déçu, surtout du HRV, c'est l'assemblage général, puis c'est le manque d'innovation de ce véhicule-là. Honda nous avait tellement habitués à avoir des habitacles super bien réfléchis, beaucoup d'ergonomie, beaucoup d'espace de rangement. Donc, c'est pas le cas de cette nouvelle génération-là, qui est un petit peu plus, ici, vous me permettez, flat, en bon français. Là, c'est une génération qui a moins de saveur. C'est un segment qui est ultra concurrentiel aussi. Tu sais, quand on pense à du Corolla Cross, à du Subaru Crosstrek, justement, c'est des produits tellement fort dans le marché qu'il faut se réveiller de bonne heure pour concurrencer ça. Et le Honda HR-V n'a pas l'air d'avoir mis son alarme, là. Je dirais que c'est un véhicule qui a manqué le bateau un peu. Donc, ce n'est pas un mauvais produit pour la consommation et la durabilité, mais ce n'est pas un produit qui est très innovant non plus.
On a Sébastien qui a besoin d'un conseil. Quoi choisir comme voiture électrique usagée en bas de 7 000 $ et quoi vérifier avant l'achat pour petite ou longue distance?
C'est une excellente question. Puis la question la plus importante que j'allais poser, c'est-tu pour des petites ou des grandes
Ah, voilà.
cycleuses? Parce que ça va faire beaucoup de différence dans les chevaux disponibles. Moi, je vous invite à vous tourner vers des valeurs sûres. Je pense entre autres à la Chevrolet Bolt de première génération. On va peut-être réussir à l'avoir autour de 10 000 $ plus que 7 000 $, mais n'empêche que c'est un produit qu'on connaît extrêmement bien, que le constructeur a continué de fournir des pièces pendant longtemps et qui va être facile à entretenir et réparer. C'est un produit qui s'est montré fiable aussi, donc ça, c'est rassurant. Chose à savoir, c'est qu'il faut toujours faire une inspection d'un véhicule comme si c'était un véhicule à moteur thermique. On va voir un garagiste qui connaît bien les voitures électriques et on peut même mesurer encore la batterie pour savoir si la batterie est encore performante ou pas, un peu comme un téléphone intelligent. Là, on peut savoir le niveau de pourcentage de la batterie. Donc, moi, je vous invite à faire toutes ces étapes-là avant de signer l'achat final pour être sûr que vous embarquez pas dans des gros frais et ou avec un véhicule qui a un problème majeur au niveau de la batterie. Mais quand ça, c'est tout vérifié, vous embarquez dans une belle aventure, c'est sûr et certain.
Vol d'automobile, est-ce que le cadenas pour les prises OBD2, je me croirais dans Star Wars, sont vraiment utiles?
Oui, c'est une autre manière de faire. C'est un petit peu plus technologique, là, mais on met comme un pare-feu, si vous voulez, sur l'ordinateur du véhicule. Donc, quand on quitte, on dit, bien, on ferme l'ordinateur. Puis comme ça, si un voleur essaie de pirater notre honte de clé puis réussir à entrer dans le véhicule, bien, on peut le barrer à distance. Donc oui, ça peut être efficace. Moi, je suis un gars classique. C'est pour ça que je vous parle toujours de bord de volant, mais ça peut fonctionner.
Et Sam, j'ai envie de terminer en te posant une question que mon père avait pour toi et qui peut-être peut répondre à des auditeurs, OK? Quel est le meilleur camion d'occasion à acheter cette année d'une valeur entre 40 et 50 000 pour une utilisation quotidienne? Fait que pas pour des travaux, pour tirer une remorque ou quoi que ce soit, là, mais vraiment, c'est de façon hebdomadaire et aller à l'épicerie, faire ses affaires, mais parce que tu tripes troc, là. Je sais que mon père a une préférence Toyota Tundra, là, mais as-tu des recommandations?
Voiture Toyota Tundra, ce n'est pas nécessairement une mauvaise idée. La seule affaire, c'est qu'on va traîner surtout l'ancienne génération, un moteur qui consomme énormément. C'est un moteur qui boit tellement que ça va devenir désagréable de l'utiliser au quotidien. Moi, je pense à des camions simples quand on parle de ce genre de questions-là. Entre autres, un Ram 1500 classique avec un moteur V6 3,6 litres. C'est le même moulin qu'on met dans un Dodge Caravan. Fait que c'est un petit moulin qu'on connaît très bien, qui a fait ses preuves en termes de fiabilité. Vous allez avoir le gros pick-up, vous allez avoir le véhicule qui est un vrai camion. C'est pas un moteur qui est agréable pour remorquer, par exemple, pour un entrepreneur général ou des choses comme ça. Mais si c'est juste pour de la balade quotidienne, facile à entretenir, pas cher sur le gaz, bien confortable comme machine, je pense que ça serait un choix tout à fait logique.
Ça fait un job. Il y a quelqu'un qui dit un Tacoma, tu dis quoi de ça?
Tacoma, très bon choix aussi. Un petit peu plus cher, par contre, hein, dans l'occasion, ça va vite, un Tacoma, puis les valeurs de revente sont extrêmement élevées. Puis, tu sais, il faut l'essayer, le Tacoma. L'habitacle de tout ça, c'est pas pour tout le monde. Moi, je trouve ça restreignant comme espace, puis c'est clairement pas pour tout le monde.
Écoute, je te disais dernière question, mais là, ça rentre. Salut, Jérémy. Petit Mazda de B2200. Est-ce qu'il y a des équivalents aujourd'hui? Deux par quatre, si possible.
La réponse est non. Des B2000, c'était une série qui était tellement intéressante là, qu'on a adoré, qui était un peu comme les Ford Ranger qu'on a connu à l'époque aussi. Il n'y a pas grand-chose qui existe dans cette grosseur-là. Tu sais, je pourrais vous parler d'un Ford Maverick, mais c'est un Ford Escape avec une boîte. C'est pas du tout le même principe. Tu sais, après ça, quand on tombe dans la catégorie des Tacoma, des Ranger d'aujourd'hui, des Colorado, un peu trop gros, beaucoup plus cher, sont pas deux pattes non plus. Fait que ça commence à être plus complexe. Malheureusement, des petites camionnettes de même, il n'y en a plus. Ça existe comme plus sur notre marché. Il n'y a pas d'équivalent non plus. J'aimerais ça vous dire, ouais, voici la solution miracle, mais à moins d'aller vous chercher un Tacoma le plus de base possible. Puis ça, c'est très rare parce que les concessionnaires ne les veulent pas. On vous amène toujours des versions plus équipées pour les vendre plus cher, là. Mais à moins de vous commander un Tacoma tout nu, il n'y a pas grand-chose qui va ressembler vraiment à ça.
Bon, Sam, là, je t'ai menti, là. J'essaie de deux dernières, puis je te laisse aller, OK?
Il n'y a pas de stress.
Ford Bronco, qu'est-ce qu'on en pense? J'ai un Kia Seltos 2023. Est-ce une amélioration d'acheter un Bronco?
C'est très différent. Là, si on parle du vrai Bronco, parce qu'il y a le Bronco Sport, on a le Bronco régulier. Le Bronco régulier, qui est un peu plus un VUS hors route, châssis en échelle. C'est assez confortable. Moi, je le trouve plus confortable que le Jeep Wrangler, mais n'empêche que c'est un produit qui vraiment différent à conduire au quotidien aussi, beaucoup plus gros, consomme plus d'essence. Ça dépend pour vous, c'est quoi une amélioration? Est-ce que c'est ça que vous recherchez? Si la réponse est oui, ben c'est sûr que c'est très différent et donc ça peut répondre à vos besoins, mais sachez que vous embarquez dans une autre machine. Là. En termes de coût d'entretien, de fiabilité puis de rappel, Ford score vraiment pas haut avec ce produit-là, donc ça dépend de vos attentes.
Et pour terminer, sinon je vous envoie sur son Facebook. Famille de 5, 3 enfants en bas âge, est-ce qu'il y a quelque chose à recommander dans le hybride électrique si possible?
Oui, bien, dans les hybrides, rapidement, je pense au Toyota Sienna hybride qu'on a parlé tantôt, un véhicule que je pense qui pourrait être très intéressant pour l'espace. Si vous n'aimez pas le look mini-fourgonnette, je pense entre autres au Hyundai Santa Fe qui maintenant est offert uniquement en version hybride. Faut aimer le style. Moi, je l'adore, mais ça dépend du monde. Mais n'empêche que c'est un produit qui est spacieux, qui va répondre à vos besoins familiaux et qui est hybride également, donc pas trop dur à la pompe. Je pense que ça peut être un produit très sérieux à considérer.
Sam, je te remercie énormément de nous avoir fait une place dans ton horaire en plein milieu d'un aéroport avec du monde qui passe à côté de toi.
ça me fait vraiment plaisir. J'espère que ça ne vous a pas trop dérangé. J'étais quasiment inquiet.
Ça me faisait rire pour toi. Je voyais le monde passer derrière et je me disais, il est concentré parce que moi, je n'aurais pas été capable.
J'espère surtout que les gens autour de moi aiment les voitures parce que ouais, sinon, j'ai été dérangeant.
Ils t'entendent parler. Hey, bon voyage, bon petit séjour du côté du Michigan. Tu nous en reparleras.
On s'en parle sans faute. Bye
Salut.
Bye.
Samuel Tremblay-Michaud, chroniqueur automobile, journaliste automobile pour RPM. Si vous voulez lire, rpmweb.ca, tout simplement. Mon Dieu, Sam qui... Ça me fascine parce que Sam, on a commencé à faire des chroniques avec, puis moi, je suis allé à l'école avec Sam. Puis c'est un gars qui a étudié en radio, vous l'entendez, je veux dire, tellement bon communicateur. Là, ça n'a pas de bon sens, là. Puis tu sais, Sam, c'est un gars qui faisait de l'impro, il était impliqué un peu partout, toujours eu cette passion-là de l'automobile, mais tu sais... Tu te dis, c'est quoi le chemin pour devenir journaliste automobile, tu sais? Fait que lui, s'est mis à se partir une page Facebook.
Ben oui.
À répondre aux questions du monde, à faire des chroniques à Kick au Saguenay, faire des chroniques avec nous à Boulevard. Puis là, de plus en plus, je veux dire, le gars, il est bon, il sait de quoi il parle, puis il est capable de répondre à n'importe quelle question sur le fly.
Moi, j'aime ça, le monde qui construise leur carrière de ouais. rêve.
Mais lui, c'est littéralement ça.
Ouais.
Puis quand il s'est mis à travailler pour RPM, c'est un rêve de ticu, là. Puis là, tu comprends, il trippe, là. Puis c'est tellement pertinent ce qu'ils sont capables de faire sur le rpmweb.ca. Moi, ces chroniques me fascinent toujours. T'sais, c'est au-delà de quelle auto choisir. Des fois, c'est « Hey, c'est quoi tes droits, toi, mettons que la garantie n'est pas respectée? » Mettons que tu payes ça puis tu avais l'impression que c'était inclus puis ce l'était pas, finalement.
Mais il y a une réponse à tout. Moi, c'est ça qui me fascine. Des fois, tu sais, on lit des questions pour Sam dans les textos.
Je comprends rien.
Moi, je comprends pas la question. Je me dis, est-ce que lui, il va comprendre? Puis tout de suite, il est comme, oui, bien sûr. Puis là, il commence à répondre, il sait tout.
Ça se dit, là, hey, je ne sais pas, je reviens avec l'info, mais c'est jamais arrivé. Si vous avez des questions pour Sam, il est assez assidu. C'est sûr que depuis qu'il voyage et travaille avec RPM, c'est pas des réponses dans l'heure. Mais si vous avez des questions, Sam Tremblay-Michaud, Samuel Tremblay-Michaud, en fait, chroniqueur automobile, c'est sa page Facebook personnelle. Vous pouvez le rejoindre aussi via le site d'RPM, évidemment. Écoute, il est déjà allé carrément booster un auditeur, là. C'est quelqu'un qui est vraiment très présent pour les gens.
Un vrai passionné.
Oh, ouais, ouais. Donc, vous l'entendrez évidemment à l'automne avec nous encore dans Gravel en retour. Pour l'instant, d'ailleurs, Gravel en retour, on est ensemble à partir du 3 août. Pour l'instant, c'est le retour de Boulevard. Je m'appelle Audrey. Antonine qui est là, Max qui est là également. On revient dans les prochaines minutes.
Le retour